Le Maître et Marguerite, c'est un roman...
C'est un très beau roman de Mikhail Bulgakov, qui est un auteur russe.
Jean-Claude Carrière.
Plus exactement ukrainien, qui est né à Kiev en 91. Il a écrit ce roman vers la fin de sa vie. C'est un roman interdit, c'est un roman satirique.
Ça peut pas faire de mal.
C'est l'œil d'un écrivain sur le régime dans lequel il est obligé de vivre, où la littérature a été en quelque sorte officialisée, dépend de la Maison des écrivains, qui est une institution qui prétend régir ce que nous avons de plus intime. Et le livre montre la réapparition de tout ce que ce régime a voulu détruire.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Elle portait un bouquet d'abominables, d'inquiétantes fleurs jaunes. Le diable sait comment elles s'appellent, mais je ne sais pourquoi, ce sont toujours les premières que l'on voit à Moscou. Et ces fleurs se détachaient avec une singulière netteté sur son léger manteau noir. Elle portait des fleurs jaunes, vilaines couleurs. Elle allait quitter le boulevard de Tver pour prendre une petite rue quand elle se retourna. Vous connaissez le boulevard de Tver, n'est-ce pas? Des milliers de gens y circulaient, mais je vous jure que c'est sur moi seul, que son regard se posa. Un regard anxieux, plus qu'anxieux même, comme noyé de douleur. Et je fus moins frappé par sa beauté que par l'étrange, l'inconcevable solitude qui se lisait dans ses yeux. L'idée que je devais absolument lui parler me tourmentait, car j'avais l'angoissante impression que je serais incapable de proférer une parole et qu'elle allait disparaître et que je ne la verrais plus jamais. Et voilà qu'elle me dit tout à coup « Mes fleurs vous plaisent-elles ?» Je traversai rapidement la chaussée et m'approchant d'elle, je répondis « Non ». Elle me regarda avec étonnement et je compris tout d'un coup, et de la manière la plus inattendue, que depuis toujours, j'aimais cette femme. Quelle histoire, hein ? Naturellement, vous allez dire que je suis fou. À ce moment, les yeux du visiteur s'arrondirent et il chuchota en fixant la lune. Oui, elle me regarda avec étonnement, puis, au bout d'un moment, elle me demanda « Vous n'aimez pas les fleurs ?»« Si, j'aime les fleurs, mais pas celles-ci. »« Lesquelles, alors ?»« J'aime les roses. » Je regrettai immédiatement mes paroles, car elle sourit d'un air coupable et jeta son bouquet dans le caniveau. Je restai un instant décontenancé par son geste, puis je ramassai le bouquet et le gardai à la main. Nous marchâmes ainsi quelque temps en silence. Puis tout à coup, elle me prit les fleurs des mains, les jeta sur la chaussée et glissa sa main gantée de noir dans la mienne. Ensuite, répéta l'inconnu, eh bien, ce qui se passa ensuite n'est pas difficile à deviner. L'amour surgit devant nous comme surgit de terre l'assassin au coin d'une ruelle obscure et nous frappa tous deux d'un coup. Ainsi frappe la foudre, ainsi frappe le poignard. « Qui est-elle donc ?» demanda Ivan, intéressé au plus haut point par cette histoire d'amour. Le visiteur fit un geste qui signifiait qu'il ne le dirait jamais, à personne. Ivan comprit alors que c'était le destin même qui les avait réunis au coin du boulevard de Tver et qu'ils avaient été créés l'un pour l'autre, à jamais. Voici comment se rencontrent les deux personnages qui vont former l'un des couples mythiques de la littérature russe du XXe siècle et qui vont donner leur nom au plus célèbre roman de Mikhail Bulgakov, « Le Maître et Marguerite ». Commencé en 1928, l'écrivain voit son œuvre menacée par la censure soviétique et brûle son premier manuscrit en 1930. Pendant 10 ans, il en reprend la rédaction, notant dans son journal « Seigneur, aide-moi à terminer mon roman ». Ce n'est qu'en 1940, quelques mois avant sa mort, qu'il achève ce qu'il appelle « son roman sur le diable ». Publié dans une version censurée en 1966, le texte intégral ne sera publié qu'en 1973. Grand admirateur du Faust de Goethe et de la symphonie fantastique de Berlioz, Bulgakov livre en effet avec ce roman une réécriture contemporaine du mythe de Faust transposé dans la Moscou stalinienne des années 30. Pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, auteur d'une biographie inachevée de Ponce Pilate, Marguerite accepte de livrer son âme au diable. Mêlant admirablement histoire d'amour et histoire biblique, ce roman inclassable jongle entre la satire politique, la comédie burlesque et le conte fantastique. Sous les traits d'un mystérieux inconnu du nom de Volande, le diable et sa joyeuse troupe, Behemoth, le gros chat noir, et Azazello, le tueur, sèment la panique en ville. Réglant ses comptes avec l'intelligentsia officielle, Bulgakov malmène avec délice les intellectuels de son époque, dont il dénonce le conformisme et l'hypocrisie. Le diable devient alors le défenseur de la liberté de l'artiste contre toute idéologie. Mais surtout, le roman dénonce par-delà le bien et le mal, l'absurde vanité des hommes, leur éternelle lâcheté et leur inconsolable besoin de rédemption. Commençons par une inquiétante rencontre, donc. Dans un jardin public de Moscou, à la fin d'une belle journée de printemps, le jeune poète Ivan Biezdomny a rendez-vous avec Mikhail Alexandrovitch Berlioz, homonyme du célèbre compositeur. Celui-ci, rédacteur en chef d'une importante revue littéraire, avait commandé au jeune homme un article prouvant l'inexistence de Jésus-Christ et lui fait part de ses critiques lorsqu'un étrange personnage s'immisce entre eux. Extrait du chapitre 1er, « Ne parlez jamais à des inconnus ». Bulgakov s'y moque de l'athéisme en vogue chez les intellectuels de son époque. C'est à ce moment précis que, pour la première fois, quelqu'un apparut dans l'allée. Il était vêtu d'un luxueux complet gris et chaussé de souliers de fabrication étrangère, gris comme son costume. Coiffé d'un béret gris, hardiment tiré sur l'oreille, il portait sous le bras une canne de jonc dont le pommeau noir était sculpté en tête de caniche. Il paraissait la quarantaine bien sonnée, bouche légèrement tordue, rasée de près, brun, l'œil droit noir, le gauche, on se demande pourquoi, vert. Des sourcils noirs tous deux, mais l'un plus haut que l'autre. Bref, un étranger. Passant devant le banc où le rédacteur en chef et le poète avaient pris place, l'étranger loucha vers eux, s'arrêta et brusquement s'approcha des deux amis. Les deux écrivains le regardèrent avec surprise. « Excusez-moi, dit l'homme avec un accent étranger, je vous suis inconnu et je me permets de... Mais le sujet de votre savante conversation m'intéresse tellement que... « Me permettez-vous de m'asseoir ?» Non sans quelques mauvaises grâces, les amis s'écartèrent. L'homme s'assit entre eux avec beaucoup d'aisance et se mit aussitôt de la conversation. « Si je ne me suis point mépris, vous avez jugé bon d'affirmer, n'est-ce pas, que Jésus n'avait jamais existé ?» demanda-t-il en fixant son œil vert sur Berlioz. « En quoi diable est-ce que cela le regarde ?» songea Biezdomny en fronçant les sourcils. « Pardonnez-moi de vous importuner, mais si j'ai bien compris, vous ne... « Croyez pas en Dieu ?»« Effectivement, nous ne croyons pas en Dieu, nous sommes athées, » répondit Berlioz en souriant. « Mais cela est merveilleux, » s'exclama l'étranger stupéfait. « Dans notre pays, l'athéisme n'étonne personne, » fit remarquer Berlioz avec politesse. « Depuis longtemps, la majorité de notre population a cessé de croire à ces fables. » Soudain, l'étranger se leva, prit la main du rédacteur en chef ébahi et la serra en proférant ces paroles. « Permettez-moi de vous remercier de toute mon âme. » « Et de quoi, s'il vous plaît, le remerciez-vous, sans qui Biezdomny ?»« Pour une nouvelle de la plus haute importance, excessivement intéressante pour le voyageur que je suis, » expliqua l'original. « Mais permettez-moi, reprit le visiteur, permettez-moi de vous demander ce que vous faites alors des 5 preuves de l'existence de Dieu. »« Hélas, répondit Berlioz avec compassion, ces preuves ne valent rien du tout sur le plan rationnel et l'humanité les a depuis longtemps reléguées aux archives. » « Bravo !» s'exclama l'étranger. « Bravo! Vous venez de répéter exactement l'argument de ce vieil agité d'Emmanuel Kant. » Intrigué, Berlioz pensait « Qui peut-il être à la fin et pourquoi parle-t-il si bien russe ?»« Votre Kant, je l'enverrai bien pour 3 ans en déportation aux îles Solovki, moi !» lança soudain Ivan Nikolaevitch Biezdomny, tout à fait hors de propos. « Ivan !» chuchota Berlioz, rouge de confusion. Mais l'idée d'envoyer Kant aux Solovki... Loin de choquer l'étranger, le plongea au contraire dans le ravissement. « Parfait, Parfait, c'est exactement ce qu'il faudrait. Du reste, je lui ai dit un jour en déjeunant avec lui, « Voyez-vous, professeur, excusez-moi, mais vos idées sont incohérentes. » Très intelligente, sans doute, mais terriblement incompréhensible. On rira de vous. Berlioz ouvrit de grands yeux ronds. En déjeunant avec Kant, qu'est-ce qu'il me chante là, pensa-t-il. L'exotique personnage continua. Mais voici la question qui me préoccupe. Si Dieu n'existe pas, qui donc gouverne la vie humaine et, en général, l'ordre des choses sur la terre. C'est l'homme qui gouverne, se hâta de répondre le poète courroucé, bien que la question, il faut l'avouer, ne fût pas très claire. Pardonnez-moi, dit doucement l'étranger, mais pour gouverner, encore faut-il être capable de prévoir l'avenir avec plus ou moins de précision et pour un délai tant soit peu acceptable. Or, permettez-moi de vous le demander, comment l'homme peut-il gouverner quoi que ce soit si non seulement il est incapable de la moindre précision, ne fût-ce que pour un délai aussi ridiculement bref que, disons, un millier d'années, mais si en outre il ne peut même pas se porter garant de son propre lendemain. Voilà ce qu'il faut lui objecter, pensa Berlioz. Certes, l'homme est mortel, mais l'essentiel est que... Mais l'étranger ne lui laissa pas le temps d'ouvrir la bouche. Certes, l'homme est mortel, dit-il. Mais le malheur, c'est que l'homme meurt parfois inopinément. Voilà le hic. Et de manière générale, il est incapable de savoir ce qu'il fera le soir même. Quelle façon absurde de présenter les choses, pensa Berlioz, qui répondit « Là, vous exagérez. Pour moi, par exemple, je sais à peu près exactement ce que je vais faire ce soir. Évidemment, si dans la rue Brenaïa, une tuile me tombe sur la tête, jamais une tuile ne tombera sur la tête de qui que ce soit, interrompit l'étranger avec grand sérieux. Vous, en particulier, vous n'avez absolument rien à craindre de ce côté. Vous mourrez autrement. » Vous savez sans doute exactement comment je mourrais, s'enquit Berlioz avec ironie, acceptant de suivre son interlocuteur dans une conversation décidément absurde. Et vous allez me le dire ? Oh, bien volontiers, répondit l'inconnu. Il jaugea Berlioz du regard, comme s'il voulait lui tailler un costume, marmotta entre ses dents quelque chose comme « Un, deux, Mercure est dans la deuxième maison, la lune est partie, six, un malheur, le soir, sept. » Puis à haute voix, il annonça gaiement « On vous coupera la tête, ce soir même. » Et clignant des yeux, l'étranger regarda le ciel que des oiseaux noirs, pressentant la fraîcheur du soir, zébraient d'un vol rapide.
Un jour, le diable fit une java qui avait tout l'air d'une mazurka. Valsa trois temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde le chantait. On le dansait à petits pas, et bien souvent, aux heures des repas, le diable venait sur sa java frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout, tout de suite à Paris, circonvenant bien des esprits. Vers la fin du mois de décembre, un député prit le coup à la tribune de la chambre, dit dans son discours 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? À coup de fusil, on l'eut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle pléielle n'écoutait plus, les grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre mêla Sébastien Bach et la java. Ronde folle, ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur.
Duc de Reichstadt, avez-vous dit non, non? Et savez-vous quel est mon véritable nom? C'est celui qu'opère à terre, la foule qui s'écarte, murmure autour de moi, le petit Bonaparte. Je suis son fils, rien que son fils.
Et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quelle pagaille dans le théâtre! Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait, pour son empire, jusqu'au pôle Nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande java sauvage fit des victimes par milliers.
Un, deux, trois, quatre, un, deux, trois, quatre, furent les New York et Chicago. L'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot. Puis un jour tout devint tranquille, on n'entendit plus de Java. Dans les champs et dans les villes, savez-vous pourquoi? Parce que le diable s'aperçut qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Tout ça c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Tout ça c'était de l'argent foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Allez, remportons notre musique et retournons en enfer.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Après la funeste prédiction de l'étranger, la conversation reprend entre les deux écrivains Berlioz et Biesdomny et celui qui se présente désormais sous le nom de Volande, professeur spécialiste en magie noire. Puisque le diable est l'esprit de contradiction, celui-ci veut à présent convaincre ses interlocuteurs de l'existence de Jésus-Christ. Il leur raconte, comme s'il en avait été le témoin, l'étrange entretien qui eut lieu en l'an 33 à Jérusalem, peu avant la Pâque juive, entre le gouverneur de Judée et un certain Yeshua Na-Ozri, originaire de Nazareth. Après le récit de la condamnation de Jésus par Ponce Pilate, l'écrivain Berlioz meurt dans un tragique accident, décapité par le passage d'un tramway. L'étrange prédiction de l'inconnu s'est donc réalisée, laissant sous le choc le poète Biesdomny qui finit par être interné. C'est à l'asile qu'il fait la connaissance d'un autre patient, surnommé le Maître, qui lui dit être l'auteur d'un livre inachevé sur Ponce Pilate et qui lui raconte sa rencontre avec la belle Marguerite. C'est ce texte que nous avons lu en exergue de l'émission. Pendant ce temps, à Moscou, l'inquiétant professeur Volande et ses acolytes se produisent au Théâtre des Variétés, dont ils ont fait disparaître l'orgueilleux directeur. Extrait du chapitre 12, La magie noire et ses secrets révélés. Dans le couloir où stridulait déjà la sonnerie d'appel, une petite foule de curieux s'était rassemblée sous divers prétextes pour regarder dans la grande loge de l'acteur. La nouvelle célébrité avait étonné tout le monde par son frac d'une longueur inhabituelle et d'une coupe admirable, et par le loup noir qui masquait son visage. Mais plus étonnant encore étaient les deux compagnons du magicien noir, un grand type à carreaux avec un lorgnon fêlé, Faot, et un chat noir, gros et gras, Béhémoth, doué de paroles. Lorsque la sonnerie retentit pour la troisième fois, tous très excités quittèrent la loge en se bousculant. Une minute plus tard, le public vit apparaître sur scène un homme rondelet, gai comme un pinson. Tout Moscou le connaissait, c'était le fameux présentateur Georges Bengalski. « Eh bien, citoyen, » dit-il en arborant un sourire enfantin. « Eh bien, vous allez assister à un numéro présenté par M. Volande, l'illustre artiste étranger, une séance de magie noire. Oui, oui, vous savez aussi bien que moi, » et Bengalski ponctua ses paroles d'un sourire entendu, « que tout cela est pure superstition. Mais le maestro Volande possède au plus haut degré la technique de l'illusionnisme, ce que vous pourrez constater vous-même. » Alors, tous ensemble, nous réclamons « Monsieur Volande, Monsieur Volande !» L'entrée du magicien, suivie de son interminable assistant et du gros chat noir, plut énormément au public. « Un fauteuil !» ordonna Volande. À la seconde même, sans que l'on pût savoir d'où il venait, un fauteuil apparut sur la scène et le magicien s'y assit. « Dis-moi, ami Faot, s'enquit Volande auprès du bouffon à carreaux, dis-moi, d'après toi, la population moscovite n'a-t-elle pas changé considérablement ?» Le magicien regarda le public, muet de saisissement. « Considérablement, messire, répondit Faot. Tu as raison, ces citadins ont beaucoup changé. Extérieurement, je veux dire. Comme la ville elle-même, d'ailleurs. On peut voir maintenant ces, comment donc, tramways, automobiles. Mais ce qui m'intéresse naturellement, ce ne sont pas tant ces autobus et autres téléphones que cette question beaucoup plus importante. Ces citadins ont-ils changé intérieurement? Dans les coulisses, on commençait à se regarder et à hausser les épaules. Le présentateur Bengelski était rouge. Rimsky, le directeur financier, blême. Mais comme s'il avait deviné cette inquiétude naissante, le magicien dit « Mais nous causons, cher Faust, nous causons !» Et le public commence à s'ennuyer. « Montre-nous donc un peu de ton talent. » « Avec plaisir, » répondit Faust. « Regardez en haut. » Une. Un pistolet apparut dans sa main et il cria « Deux !» Le pistolet fut pointé vers le plafond. « Trois !» Une flamme jaillit, le coup de feu claqua, et aussitôt, sous la coupole, plongeant entre les trapèzes, des rectangles de papier blanc commencèrent à tomber dans la salle. Ils tournoyaient, voltaient de tous côtés, se répandaient dans les galeries, tombaient vers l'orchestre et la scène. En quelques secondes, la pluie d'argent, de plus en plus épaisse, atteignit les fauteuils, et les spectateurs commencèrent à attraper les billets. Des centaines de mains se levèrent, des spectateurs tendirent les billets vers la lumière de la scène et constatèrent, par transparence, la parfaite authenticité de leur filigrane. Leur odeur non plus ne laissait place à aucun doute, c'était, d'un attrait sans pareil, l'odeur des billets fraîchement imprimés. L'allégresse d'abord, puis une extrême surprise s'emparèrent de tout le théâtre. De partout fusaient les mêmes mots. « Des billets de 10 !»« Des billets de 10 !» et des rires joyeux. Déjà, les spectateurs rampaient dans les allées, fouillant sous les fauteuils. D'autres, nombreux, étaient montés sur les sièges pour saisir au vol les capricieux billets. Peu à peu, le visage des miliciens de service prit un air vaguement perplexe. Quant aux artistes, ils sortirent des coulisses et se mêlèrent sans cérémonie aux spectateurs. Au premier balcon, une voix lança « Hé, laissez ça, c'est à moi, il m'a volé !»« Touche pas, sinon c'est moi qui vais te toucher », répliqua une autre voix. Sur quoi on entendit un bruit de chute, un casque de milicien apparut au balcon, quelqu'un fut emmené. Bref, l'excitation montait, et l'on ignore à quel débordement tout cela aurait abouti si tout à coup, Faust n'avait arrêté net en soufflant en l'air la pluie d'argent. Des jeunes gens quittèrent brusquement leur place et filèrent droit vers le buffet. Un brouhaha général emplissait le théâtre et tous les yeux brillaient d'excitation. Vraiment, on ne sait à quel débordement tout cela aurait abouti si Bengelski, enfin, n'avait pris sur lui de faire quelque chose. Il apparut sur scène et proclama de sa voix la plus sonore « Citoyens, ce que nous venons de voir est un cas typique d'hallucination collective, comme on dit. C'est une expérience purement scientifique qui démontre parfaitement qu'il n'existe pas de miracle. Nous allons maintenant demander au maestro Volante de nous dévoiler ses secrets. » Et vous verrez, citoyens, que ces prétendus billets de 10 roubles vont disparaître aussi soudainement qu'ils sont apparus. Ce petit discours ne plut pas du tout au public. Un profond silence se fit dans la salle. C'est Faust qui le rompit en ces termes. Et ça, c'est un cas typique de bobard, comme on dit. Les billets, citoyens, sont authentiques. Bravo ! Jeta brutement une voix de basse venue du poulailler. « Quant à celui-ci, » reprit Faust en montrant Bengelski du doigt, « il commence à m'embêter. Il gâche le spectacle avec ses commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui faire ?»« Lui arracher la tête !» proposa avec sévérité un spectateur des galeries. « Hein ? Comment dites-vous ? » répondit aussitôt Faust. « Lui arracher la tête ? C'est une idée. « Behemoth !» cria-t-il au chat. « Vas-y !»« Ein, zwei, drei !» Il se produisit alors quelque chose d'extraordinaire. Le chat noir se ramassa en boule, bondit comme une panthère à la poitrine de Bengelski et de là sauta sur sa tête. Il se cramponna à la chevelure clairsemée du présentateur et dans un grouillement de ses grosses pattes, en deux tours, lui arracha la tête du cou dodu avec un hurlement sauvage. Les 2500 personnes présentes dans le théâtre poussèrent un seul cri. Des geysers de sang jaillirent des artères rompues et tombèrent en pluie sur le plastron et la bille. Le corps sans tête exécuta quelques entrechats absurdes, puis s'affaissa sur le plancher. Dans la salle, des femmes jetèrent des cris hystériques. Le chat remit la tête à Fao, qui la saisit par les cheveux et la leva bien haut pour la montrer au public. Et cette tête cria d'une voix désespérée qu'on entendit dans tout le théâtre. « Un docteur !»« En diras-tu encore des bêtises pareilles, hein ?»« Non, je ne le ferai plus !» dit la tête qui pleurait à chaudes larmes. « Alors, citoyen, qu'est-ce qu'on fait ? On lui pardonne ?» demanda Fao à la salle. « On lui pardonne, on lui pardonne !» crièrent d'abord quelques spectatrices, puis des hommes, puis tout le théâtre en chœur. « Qu'ordonnez-vous, messire ?» demanda Fao en se tournant vers l'homme masqué. « Eh bien, » répondit celui-ci d'un air pensif, « il faut prendre ces gens comme ils sont. Ils aiment l'argent, mais il en a toujours été ainsi. L'humanité aime l'argent, qu'il soit fait de n'importe quoi, de parchemin, de papier, de bronze ou d'or. Ils sont frivoles, bien sûr, mais bah, la miséricorde trouve parfois le chemin du cœur des gens ordinaires. » Et à voix haute, il ordonna « Remettez cette tête en place. » Y eut-il cette nuit-là à Moscou d'autres événements insolites ? Nous l'ignorons. Et naturellement, nous ne chercherons pas à le savoir, d'autant plus que le moment est venu de passer à la seconde partie de cette véridique histoire. Lecteur, suis-moi.
Alexander Petrovitch, metteur en scène.
Chez Bulgakov, le diable, c'est chaque homme, si vous voulez. Le diable se trouve dans chacun de nous, n'est-ce pas ? Et surtout, il y a une idée qui...
C'est anti-Rousseau.
Si vous voulez. Mais ce que je pense, surtout, il y a une identification, une allusion, n'est-ce pas, que le maître, l'écrivain, pourrait aussi être le diable.
Découvrons à présent la belle Marguerite qui se prépare pour le bal des sorcières. La deuxième partie du roman s'ouvre sur un portrait de Marguerite. Lasse d'une vie confortable auprès d'un mari qu'elle n'aime pas, elle désespère de retrouver un jour son amant d'antan. Le lendemain de la soirée au Théâtre des Variétés, Marguerite rencontre un inconnu dans un jardin public. Celui-ci, qui n'est autre qu'Azazello, le tueur diabolique, lui propose de devenir la reine du bal de Satan en échange d'une potion qui lui redonnera sa première jeunesse. Cette rencontre avec Satan sera pour elle l'occasion de réaliser son vœu le plus cher, retrouver l'écrivain qu'elle appelle son maître. Le pacte est scellé. La voici dans la chambre. La nouvelle sorcière attend le signal de son envol. Extrait du chapitre 20, La crème d'Azazello. Dans la glace, la Marguerite de 30 ans était contemplée par une jeune femme de 20 ans. À la souple chevelure noire naturellement ondulée, qui riait sans retenue en montrant toutes ses dents. En même temps se dissipa, comme si on venait d'ôter une aiguille de son cerveau, la douleur lancinante qui avait enserré ses tempes toute la soirée depuis la rencontre de l'inconnu dans le jardin Alexandrovski. Les muscles de ses bras et de ses jambes s'affermirent, et enfin le corps de Marguerite perdit toute pesanteur. Cette friction ne l'avait pas seulement changée extérieurement. En elle, partout, dans chaque cellule de son corps, bouillonnait la joie, comme des bulles dont elle éprouvait le picotement dans tout son être. Marguerite se sentait libre, libre de toute entrave. En outre, elle comprit avec une évidence aveuglante que venait de se produire précisément ce que lui avait annoncé son pressentiment du matin, et qu'elle allait quitter cette maison et son ancienne vie pour toujours. À ce moment, de l'autre côté de la rue, une fenêtre ouverte déversa soudain les accords tonitruants d'une valse échevelée. Et on entendit en même temps le halètement d'une voiture qui s'arrêtait près de la grille du jardin. C'est Nikolaï Ivanovitch, mon mari. « Je le reconnais à son pas, » pensa Marguerite. « En guise d'adieu, il faudrait lui faire quelque chose d'intéressant et de drôle. » Marguerite ouvrit le rideau, s'assit de biais sur le bord de la fenêtre et entoura son genou de ses mains. La lumière de la lune caressait son côté droit. Marguerite leva le visage vers la lune et prit un air rêveur et poétique. Dans le jardin, les pas résonnèrent encore à deux reprises, et se turent soudainement. Après avoir poussé un soupir pour parfaire le tableau, Marguerite tourna la tête vers le jardin et aperçut effectivement Nikolaï Ivanovitch qui s'était laissé tomber sur un banc. Son pince-nez était mis de travers et il serrait son porte-document dans ses bras. « Ah, comment allez-vous, Nikolaï Ivanovitch ?» dit Marguerite d'une voix triste. « Bonsoir, vous venez d'une réunion ?»« Eh bien moi, » continua Marguerite en se penchant un peu plus au-dessus du jardin, « je suis seule. Comme vous le voyez, je m'ennuie. Je regarde la lune. Vous n'êtes guère poli, Nikolaï Ivanovitch. Enfin, tout de même, je suis une femme. C'est mufle de ne pas répondre quand on vous parle. » Nikolaï Ivanovitch partit soudain d'un petit rire saugrenu, se leva et, ne sachant manifestement dans son trouble ce qu'il faisait, au lieu d'ôter son chapeau, battit l'air de sa serviette. « Ah, que vous êtes barbant, Nikolaï Ivanovitch !» continua Marguerite. « D'ailleurs, j'en ai tellement parti la tête de vous que je ne peux pas l'exprimer. Ah, comme je suis heureuse de vous quitter. Allez donc au diable !» À ce moment, dans la chambre à coucher, le téléphone sonna. Marguerite sauta à bas de la fenêtre et, oubliant complètement Nikolaï Ivanovitch, elle saisit le récepteur. « Ici Azazello !» dit une voix dans l'appareil. « Cher, cher Azazello !» s'écria Marguerite. « Il est l'heure, envolez-vous. Quand vous passerez au-dessus de la grille du jardin, vous crierez « Invisible !» Ensuite, faites un tour au-dessus de la ville pour vous habituer, puis filez vers le sud. On vous attend. » Marguerite raccrocha et au même instant, dans la pièce voisine, quelque chose clopina comme une jambe de bois et vint heurter la porte. Aussitôt, Marguerite ouvrit celle-ci et un balai, la brosse en l'air, entra en dansant dans la chambre. Marguerite poussa un cri de ravissement et d'un bond enfourcha le balai. À cet instant seulement, elle se souvint que dans tout ce remue-ménage, elle avait complètement oublié de s'habiller. Elle galopa jusqu'à son lit et saisit la première chose qui lui tombait sous la main, une combinaison bleu ciel. Brandissant celle-ci comme un étendard, elle s'envola par la fenêtre. Dans le jardin, la valse redoubla d'intensité. De la fenêtre, Marguerite se laissa glisser vers le sol et vit Nikolaï Ivanovitch. Celui-ci paraissait changé en statue et complètement abasourdi par les cris et le tintamarre qui s'était déchaîné dans la chambre illuminée de ses voisins d'en face. « Adieu, Nikolaï Ivanovitch !» s'écria Marguerite en venant voler devant lui. Nikolaï Ivanovitch fit « Oh !» laissa choir sa serviette et se mit à glisser le long du banc en s'agrippant des deux mains au dossier. « Adieu à jamais, je m'envole !» cria Marguerite, dont la voix couvrit la musique. Elle s'aperçut à ce moment qu'elle n'avait aucun besoin de sa combinaison bleu ciel et avec un rire mauvais, elle en couvrit la tête de Nikolaï Ivanovitch. Aveuglé, celui-ci glissa du banc et s'écroula bruyamment sur les dalles de l'allée. Marguerite se retourna pour regarder une dernière fois la maison où elle avait si longtemps souffert. Puis elle cria « Invisible ! Invisible !» À travers les branches de l'érable qui, au passage, lui fouettèrent légèrement la figure, elle atteignit la grille, passa au-dessus et s'envola dans la rue. Derrière elle, s'envola le tourbillon effréné de la valse.
C'est un texte, finalement, au cœur de ce texte, il y a quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui. C'est pas qu'il y a une fantaisie extraordinaire, c'est pas que c'est un roman épique, mais aussi au cœur de ce texte, il y a le thème de la compassion. Et pour moi, c'est peut-être un des thèmes plus politiques qui existent actuellement dans notre société.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Sans marche que j'admire, sans pas.
Et voici pour conclure le double épilogue de cette épopée diabolique. Après avoir assisté au bal des morts-vivants, Marguerite obtint de Volande la réalisation de son vœu le plus cher, faire réapparaître son amant, le maître. Tandis qu'Azazello et Behemoth s'adonnent encore à quelques facéties dans le quartier du Théâtre des Variétés, Volande reçoit une étrange visite, celle de Matthieu Lévy, le disciple de Jésus-Christ, qui lui transmet l'ordre de faire mourir le maître et Marguerite en leur promettant le repos éternel. Empoisonné par Azazello, le maître et Marguerite sont escortés par Volande à leur dernière demeure. Aux portes de l'enfer, ils font une rencontre inattendue. Extrait du chapitre 32, Grâce et repos éternel, où l'on apprend que le diable n'est autre que le messager de Jésus. Ainsi s'achève donc par une habile mise en abîme les tourments de Ponce Pilate, le roman du maître et le roman de Bulgakov. Volande arrêta son cheval sur un haut plateau morne et rocailleux. Les cavaliers avancèrent alors au pas, écoutant les sabots ferrés de leurs chevaux écraser les pierres. La lune inondait la plateforme d'une lumière verte écrasante, et Marguerite discerna bientôt, au cœur de cette contrée déserte, la forme blanche d'un homme assis dans un fauteuil. Cet homme était peut-être sourd, ou bien profondément absorbé dans ses pensées. Marguerite remarqua que l'homme assis, dont les yeux paraissaient aveugles, se frottait continuellement les mains d'un geste bref. Elle aperçut également, couché près du lourd fauteuil de pierre, un énorme chien de couleur sombre. Les cavaliers s'arrêtèrent. « Ils ont lu votre roman, » dit Volande en se tournant vers le maître. « Ils ont seulement dit que malheureusement il n'était pas terminé. Aussi ai-je voulu vous montrer votre héros. Voilà près de 2000 ans qu'il est assis sur ce plateau, et qu'il dort. Mais quand arrive la pleine lune, comme vous le voyez, il est tourmenté par l'insomnie et le souvenir de sa lâcheté. » Que dit-il ? Demanda Marguerite, tandis qu'une ombre de pitié passait sur son visage parfaitement calme. Il dit toujours la même chose, répondit Volande. Il dit que même au clair de lune, il ne peut trouver la paix et que sa tâche est détestable. Et quand il dort, il voit toujours la même chose, un chemin de lune. Et il veut aller le long de ce chemin en conversant avec le détenu à Nozri, parce que, ainsi qu'il l'affirme, il n'avait pas pu tout lui dire jadis, il y a très longtemps, le 14e jour du mois de Nisan. Mais hélas, on ne sait trop pourquoi, il n'arrive pas à aller sur ce chemin et personne ne vient à lui. Que faire alors? Il ne lui reste qu'à converser avec lui-même. Il dit que ce qu'il hait le plus au monde, c'est son immortalité et sa célébrité inouïe, et qu'il échangerait volontiers son sort contre celui du vagabond Matthieu Lévy. 12 000 lunes pour une seule lune jadis, n'est-ce pas vraiment trop? Délivrez-le! Cria brusquement Marguerite de la voix perçante qu'elle avait quand elle était sorcière. Mais Volande riait en regardant Marguerite. Vous ne pouvez pas intercéder pour lui, Marguerite, pour la bonne raison que celui avec qui il désire tant parler l'a déjà fait, inutilement. Puis il se tourna vers le maître et dit « Eh bien maintenant, vous pouvez terminer votre roman en une phrase. » On eût dit que le maître attendait ce moment, tandis que debout et immobile, il regardait le procurateur. Il joignit les mains en porte-voix et cria « Il est libre, libre, il t'attend !» Les mots transformèrent la voix du maître en un tonnerre. Et ce tonnerre provoqua leur ruine. Les infernales parois rocheuses s'effondrèrent. Alors s'alluma une ville immense qui dominait les idoles étincelantes dressées au-dessus d'un jardin luxuriant, Jérusalem. Jusqu'au pied de ce jardin s'allongeait le chemin de lune tant attendu par le procurateur. Le chien fut le premier à s'y élancer. L'homme au manteau blanc doublé de pourpre se leva de son fauteuil et émit des cris rauques d'une voix cassée. On ne pouvait discerner s'il pleurait ou s'il riait, ni le sens de ses cris. On put seulement constater qu'à la suite de son fidèle gardien, il s'élança à son tour, frénétiquement, sur le chemin de lune. Puis, à leur tour, le maître et Marguerite empruntent le chemin que leur désigne Volande. « Marguerite Nikolaevna, vous n'avez cessé d'imaginer pour le maître le meilleur avenir, mais en vérité, ce que je vous propose et ce que Yeshua a demandé pour vous est encore meilleur. » Volande fit un geste de la main et Jérusalem s'éteignit. Puis il se tourna vers le maître. « Ô maître trois fois romantique, dit-il d'une voix douce et convaincante, n'avez-vous pas envie l'après-midi de vous promener avec votre ami sous les cerisiers et le soir d'écouter de la musique de Schubert? Ne voudriez-vous pas, comme Faust, vous pencher sur une cornue avec l'espoir de réussir à modeler un nouvel homuncule? Alors là-bas, là-bas, il y a une maison qui vous attend et les bougies sont déjà allumées. Prenez ce chemin, maître. » Prenez ce chemin. Et adieu, car pour moi, il est temps. Adieu, lancèrent d'une seule voix le maître et Marguerite. Et le maître et Marguerite virent se lever l'aube promise. Écoute ce silence, dit Marguerite, et jouis de ce que tu n'as jamais eu de ta vie, le calme. Regarde devant toi, voilà la maison éternelle que tu as reçue en récompense. Tu t'endormiras avec le sourire aux lèvres. Quelqu'un veillera sur ton sommeil. Et ce sera moi. Ainsi parla Marguerite en se dirigeant avec le maître vers leur maison éternelle. Et le maître eut le sentiment que les paroles de Marguerite coulaient comme un filet d'eau douce. Et la mémoire du maître, cette mémoire inquiète, percée de mille aiguilles, commença à s'éteindre. Quelqu'un rendait la liberté au maître, comme lui-même venait de rendre la liberté au héros créé par lui. Ce héros partit dans l'infini, partit sans retour, ce fils d'un roi astrologue qui, en cette nuit de dimanche, avait reçu sa grâce, le cruel cinquième procurateur de Judée, le chevalier Ponce Pilate.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Jean-Michel Coqui. Merci à vous deux, merci aussi à Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem qui l'ont préparée.